Chapitre 18. Avec la disparition de Poppy Warlow, son sentiment de solitude devint oppressant. En prévision d'un accouchement prématuré, elle décida de se livrer à une ultime simulation de fuite, car elle doutait d'avoir engrangé les automatismes nécessaires. La nuit venue, sachant que les infirmières, une fois la distribution de somnifères accomplie, s'abstenaient de la moindre ronde, elle se faufila hors de sa chambre pour se glisser dans le couloir de maintenance. Ce qui devait arriver arriva. Nerveuse sur le qui-vive, elle se trompa de bifurcation et s'égara dans un réseau d'aération où elle n'avait jamais mis les pieds. La panique s'empara d'elle. Elle crut qu'elle ne pourrait jamais sortir du labyrinthe. Son ventre entravait sa reptation. Alors qu'elle suffoquait, elle aperçut enfin une lueur au bout du boyau. Le halo provenait d'une grille surplombant une soute crasseuse remplie jusqu'au plafond de fumée métallique. Peggy n'en pouvait plus. Taraudée par l'envie d'uriner, elle délogea la grille d'un coup de talon et se laissa glisser dans la salle. Une odeur étrange lui sauta aux narines. Quelque chose qui évoquait ce relent sui generis qui flotte dans les fauveries aux abords de la cage des gorilles. Elle s'immobilisa pour examiner les lieux. On y voyait mal. La soute paraissait de dimension importante. Des centaines de tonneaux métalliques y avaient été empilés, constituant une muraille oppressante. Tous portaient la même inscription au pochoir. Plissant les yeux, Peggy se pencha pour la déchiffrer. Elle lut « Spécimen nêleux, très dangereux. Pour votre sécurité, évitez d'ouvrir le conteneur. » Si l'emballage présente un défaut, alertez les services d'hygiène. Au même moment, quelque chose bougea à l'intérieur du fût. Un crissement se fit entendre, comme si des griffes essayaient de déchirer l'acier du tonneau. La jeune femme fit un bond en arrière. Ce sont des bébés, fit une voix sourde derrière elle. Les bugs du programme de renforcement. Piggy pivota sur ses talons. Un géant, qui ressemblait comme un frère à Horos, le recruteur auquel elle avait eu affaire à L.A., émergea d'une zone d'ombre. Il portait une salopette souillée et des gants de travail à la façon des éboueurs municipaux. « On les enferme dans ces tonneaux blindés dès leur naissance, » poursuivit-il. « Les fûts sont en titane, un métal d'une solidité à toute épreuve. Les pauvres gosses ne risquent pas d'en sortir. » Peggy frissonna. Enveloppée dans sa robe de chambre bleu layette, elle se sentait déplacée dans cette annexe des empires infernaux. « Je m'appelle Zack, » dit le géant. « Avant, j'avais un vrai nom, mais ça n'a plus d'importance. J'étais pilote dans la Navy. Je faisais partie du fameux programme. C'était au début, dans les premiers temps de la station. J'ai mal supporté le traitement, comme beaucoup de mes copains. C'est loin, ça ne sert à rien d'en parler. Aujourd'hui, je suis éboueur. » Ou croque-mort, ou bourreau, je ne sais pas exactement. Il se mouvait avec lenteur, comme s'il souffrait de rhumatisme articulaire. Son visage, incroyablement allongé, évoquait une caricature de journal satirique. Il s'approcha de l'un des bidons et cogna dessus du plat de la main. Cette sollicitation déclencha une suite de soubresauts qui fit trembler le tonneau sur sa base. « Celui-ci est né il y a 3 ans, commenta-t-il. Il commence à se sentir à l'étroit dans sa prison. « Je ne comprends pas, » bredouilla Peggy. « Comment fait-il pour être encore en vie? Il devrait être mort étouffé. Je ne vois aucun trou d'aération dans ce baril. Ils n'en ont pas besoin. Ils s'adaptent, ils mutent en permanence. Une fois le dernier atome d'oxygène consommé, ils s'organisent pour survivre en respirant du gaz carbonique. Ils n'ont pas davantage besoin de manger ou de boire. C'est la conséquence du traitement de renforcement. Le programme visait à endurcir les pilotes de vaisseaux spatiaux. On voulait faire d'eux des surhommes pour leur permettre de survivre dans les conditions les plus extrêmes. On a dû vous l'expliquer en large et en travers, non? Pour arriver à ça, les scientifiques ont trafiqué l'ADN des cobayes. Notre ADN. Il y a beaucoup de déchets. Guère plus d'un nourrisson normal sur 20 inséminations. mais c'est un taux de réussite jugé acceptable. Les échos de la conversation résonnant au cœur des bidons semblaient avoir réveillé les prisonniers. Peu à peu, la soute s'emplit d'un concert de chocs sourds et de crissements. « Ce ne sont que des enfants, » continua Zach. « Des gosses un peu particuliers, incontrôlables, dominés par un instinct de prédateur. C'est le traitement qui les a rendus comme ça. À force d'essayer de les endurcir, on les a transformés en bêtes sauvages. Le programme s'est égaré, sa logique s'est pervertie. Les toubibs ne l'avaient pas prévu. Mais quelle est leur espérance de vie sans qui la jeune femme ?»« Longue, » soupira les boueurs. « Très longue, malheureusement pour eux. Ils sont fabriqués pour ça. La plupart d'entre eux sont capables de survivre un siècle à l'intérieur des tonneaux. Mais ils vont grandir, non ? Peut-être, peut-être pas. Je vous l'ai dit. Ils sont conçus pour s'adapter aux contraintes du milieu. Certains entreront en hibernation, d'autres suceront les griffes sur les parois de leur prison pour tenter d'en sortir. C'est selon, tout est possible. Il s'agit d'une race nouvelle, inconnue. Ne serait-il pas plus humain de les tuer à le tapis dit ? Je ne sais pas, en les gazant. Le géant laissa échapper un rire teinté d'ironie. « Vous avez du mal à vous y faire, hein » grogna-t-il. « Vous n'arrivez toujours pas à piger qu'ils sont presque immortels ?»« Invincibles, invulnérables. Les toubibs ont tout essayé pour se défaire d'eux, croyez-moi. Poison, électrocution, noyade, cuisson au micro-ondes, gazage. Rien n'a marché, ils sont increvables. » De ce point de vue, l'expérience est un vrai succès. On ne peut le contester. « Comment ferez-vous lorsqu'il n'y aura plus la place de les entasser ?» demanda Piggy. Zach haussa les épaules. « En réalité, murmura-t-il, je ne suis pas censé les conserver dans cette soute plus de 2 jours après leur arrivée. Je vous l'ai dit, je suis un éboueur. Ma tâche, telle que l'ont défini les gens de la sécurité intérieure, consiste à expulser les bidons dans l'espace au fil des livraisons. Je dispose pour cela d'un sas d'éjection comparable à un tube lance-torpille. J'y place le tonneau, je fais monter la pression, j'appuie sur un bouton et hop, le conteneur s'envole dans le cosmos. Pour aller où ? Oh, pas loin ! Il est tout de suite capturé par l'attraction terrestre et se positionne en orbite au milieu du dépotoir de ferraille cosmique qui tourne inlassablement autour de la planète. Il y a là tellement de navettes, de spoutniks et autres cochonneries des premiers âges de l'exploration spatiale qu'on ne risque pas de remarquer quelques débris de plus. Vous satellisez ces monstres autour de la Terre ? Oui, mais le moins possible. J'ai tendance à remettre la besogne au lendemain. Je n'aime pas mon travail, voyez-vous. Alors les fûts s'entassent. Heureusement, personne ne vient jamais ici. Les gestionnaires de la station ont trop peur de ce qu'ils pourraient voir. On me laisse gérer l'enfer à ma guise sans me demander de compte. Voilà pourquoi je suis peu à peu submergée par mes pensionnaires. Je finis par m'attacher. C'est là mon grand défaut. La jeune femme laissa son regard errer sur les bidons qui, à certains endroits, formaient des pyramides, des mastabas. Une géographie mortuaire étrangement bruissante. « Et leur mère, » murmura-t-elle, « qu'en fait-on ? » On les parque dans une autre soute, celle du retraitement des déchets. Un lieu hautement toxique, exposé aux fuites de matières fissiles. Grâce au traitement de renforcement, elles parviennent à survivre, en dépit de la pollution extrême et de l'irradiation. Mais elles finissent par muter, elles aussi. La plupart sont couvertes d'écailles et ressemblent à des varans. On raconte qu'il leur arrive de s'entre-dévorer. Au bout d'un an de ce traitement, elles perdent la mémoire et l'usage de la parole. Elles se nourrissent d'ordures. Cela dit, je ne suis pas allée y voir. Il peut s'agir de légendes. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas les renvoyer sur Terre, elles en savent trop. Peggy demeura silencieuse. Elle songeait à Poppy Warlow, exilée dans cette fameuse soute. Quant à son enfant, il était ici à n'en pas douter, au milieu des bidons du dernier arrivage. Zach sourit et leva un doigt pour attirer son attention. Vous entendez ? Fit-il. Ils savent que vous n'êtes pas comme les autres. Leur instinct ne les a pas trompés. Peggy comprit qu'il faisait allusion au cliquetis de griffes et au grognement qui n'avait cessé de s'amplifier au cours des dernières minutes. « Que voulez-vous dire ? » lança-t-elle sur la défensive. « Ne protestez pas, » dit le géant avec douceur, « je suis comme eux. » C'est l'une des conséquences du traitement. Ils développent l'instinct, l'intuition, la prescience. Tous les animaux possèdent ces dons, les psychopathes également. Sans doute sommes-nous devenus un peu des deux. Je sais que vous n'êtes pas ce que vous essayez de paraître. Vous êtes déguisé. Et l'enfant que vous portez n'est pas un être de chair et de sang, c'est un objet, une arme. Ai-je bien deviné ? Il accentua son sourire comme s'il s'agissait d'un jeu. Peggy recula, troublée. « N'ayez pas peur, lâcha-t-il, je ne suis pas votre ennemi. Je sens que vous n'êtes pas complètement humaine. Il y a deux êtres en vous, une femme détruite et une bête fauve. Vous êtes tout à la fois cassée et très puissante, féroce. C'est un curieux mélange. On vous a envoyé ici pour nous détruire. « Mais non, protesta Peggy, vous délirez ?»« J'ai raison, insista le géant. Vous allez détruire la station, je le sais, et cela me convient parfaitement. Quoi ? Vous croyez que j'ai envie de continuer à vivre dans cet état ? Je fais partie de ceux qui pensent que cette aberration doit cesser. J'approuve votre mission. Au nom de tous ceux qui s'agitent au creux des tonneaux, je vous ordonne de la mener à bien. » Il agita ses bras interminables au-dessus de sa tête, cédant à la grandiloquence. Peggy le trouva pitoyable, effrayant et magnifique. Le cliquetis des griffes devenait assourdissant. Les barils prison vibraient comme s'ils allaient se déchirer, libérant leurs pensionnaires. Peggy prit peur, s'imagina submergée par la meute indescriptible. Elle eut envie de fuir. Alors qu'elle amorçait un mouvement, Zack la saisit par le poignet et posa sa main immense sur son ventre gonflé par la maternité. « Attention » souffla-t-il, le regard envahi par l'inquiétude. « Ce ne sera peut-être pas aussi facile que vous l'imaginez. Cet enfant, au début ce n'était qu'un objet, une arme, un leurre. Mais le traitement de renforcement l'a contaminé. Il a commencé à changer. Quoi ? Je crois qu'il pense par lui-même désormais. Il a acquis un libre arbitre. Il ne sera peut-être plus aussi docile qu'au début. Que voulez-vous dire ? Une fois né, il se peut qu'il ait envie de vivre. On l'avait programmé pour se sacrifier, mais il a changé d'avis. Il est possible qu'il ne vous obéisse pas. N'attendez pas trop longtemps. Ne lui donnez pas le temps de commencer à penser. Tuez-le dès qu'il sera sorti de votre ventre. Peggy se dégagea d'un coup de rein. Effrayée par les prédictions du fou, elle recula en direction de la bouche d'aération. « Vous racontez n'importe quoi, » bredouilla-t-elle. « Je l'espère pour vous, » soupira Zack avec philosophie. « Je serai déçue d'apprendre que vous avez échoué. Vous êtes ici pour nous tuer, ne l'oubliez pas. » Et levant son poing difforme en un geste de défi puéril, il s'écria « Viva la muerte !» Peggy s'enfuit sans se retourner.